Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Nous allons partager la parole de Dieu, nous allons prier un moment et après nous allons partager cette parole. Père, je te remercie pour ta parole. Parce que ta parole est puissante. C'est ta parole qui nous montre comment nous devons mener notre vie, Seigneur. Comment tu veux, Seigneur, que nous puissions mener notre vie. Merci pour tous les principes puissants. Pour les principes de sagesse que tu mets dans ta parole, Seigneur. Merci parce qu'au travers des personnages que tu nous donnes, au travers des lois spirituelles, Seigneur, du royaume dans lequel tu nous as fait naître, ton royaume, le royaume de Dieu, Seigneur, tu veux que nous puissions accomplir des choses. Tu ne veux pas que notre vie soit inutile sur cette terre. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons un vacuum souvenir pour quelques personnes sur cette terre. Mais tu veux que nous puissions avoir un puissant impact pour changer et transformer les situations, pour amener l'évangile. Et Seigneur, au travers de cela, tu veux que nous brillions, Seigneur, pour que nous puissions vraiment montrer la bonne odeur de Christ partout où nous allons, Seigneur. Au travers de la réussite de ce que tu nous donnes de faire, Seigneur, dans nos vies. C'est pourquoi je te prie ce matin encore, pour que ta parole soit puissante dans nos cœurs, qu'elle se révèle d'une façon spéciale, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nous étudions la vie d'Abraham, et nous sommes en train de découvrir sept clés pour une destinée réussie. Je vous rappelle que Dieu veut, à partir du moment où il nous a sauvés, il veut que nous puissions mettre les fondations pour que notre vie puisse être pleinement épanouie et réussie. Je vous rappelle que Dieu n'est pas dans le business de la religion. Il n'est pas dans le business du malheur, de la pauvreté, de la tristesse, de la dépression, de toutes sortes de liens qui tiennent captifs les êtres humains. Mais Dieu est un Dieu de réussite. Dieu est un Dieu de liberté. Dieu est un Dieu dans lequel tu peux t'épanouir et tu dois t'épanouir. Maintenant, si tu veux apprendre ces choses, il va falloir que tu utilises des principes du royaume de Dieu. Rappelez-vous, nous ne sommes pas dans une religion, mais Dieu nous a ouvert son royaume au travers de notre nouvelle naissance. Abraham, lui, bien qu'il n'était pas né de nouveau, a utilisé certains principes dans sa vie. C'est un homme qui a appris ça à la dure, c'est-à-dire il a fait beaucoup d'erreurs. Mais je vous rappelle que quand on se réfère à la vie d'Abraham dans la parole de Dieu, partout, malgré ses erreurs, Abraham a un témoignage extraordinaire de la part de la parole de Dieu. Et rappelez-vous, Dieu vous sauve. Vous êtes en route pour l'éternité. Il a sécurisé votre éternité pour aller au ciel à partir du moment où vous mourrez. Mais sur cette terre, vous avez une destinée. Et dans cette destinée, vous avez une part à jouer. Ce n'est pas Dieu qui fera tout pour vous, mais c'est vous qui devez vous positionner à certains moments dans votre vie pour que Dieu puisse intervenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham va recevoir une super promesse, la plus grande des promesses qu'aucun homme n'ait reçue sur la terre. Je vous rappelle que de là va naître le peuple d'Israël. C'était la promesse terrestre d'Israël pour Israël, d'Abraham. Et Dieu lui dit un jour, regarde les étoiles, tu ne pourras pas les compter. Telle sera ta postérité aussi. Et ça, c'était une prophétie sur l'église de Dieu. Tous ceux qui recevraient au travers du Messie la nouvelle naissance, le salut en Christ. Donc nous avons vu qu'il y a un certain nombre de clés qui sont indispensables pour nous permettre de réussir notre vie. La première que nous avons étudiée, c'était avoir une vision. Et ça, c'est vraiment découvrir ce que le Seigneur a pour nous. Et je vous ai expliqué que souvent, Dieu nous donne d'abord, entre guillemets, un continent. Ensuite, plus nous marchons avec lui, il va nous montrer où est le pays. Ensuite, il va nous montrer la ville, la rue et le numéro. Pour qu'on arrive à notre destination. Mais au début, Dieu va vous révéler des choses très larges, très vagues. Simplement nous donner les grandes orientations. Et c'est pour ça que j'ai comparé ça à une adresse physique. Et c'est clair que tant que nous n'avons pas de vision dans notre cœur, tant que nous ne savons pas la volonté spécifique de Dieu pour nous,
et
bien c'est clair que nous tournons en rond. Et je vous rappelle que ça se recherche par la prière. Ensuite, il y a l'obéissance.
Abraham
reçoit sa promesse et après il agit sur la promesse, sur la première partie où Dieu lui dit va faire ceci, sors de ta patrie. Et là il va apprendre l'obéissance. Je vous rappelle que l'obéissance est un trait de caractère. L'obéissance s'apprend dans des moments difficiles. Et l'obéissance envers Dieu, c'est un choix qui doit être motivé par une révélation de la compréhension de l'amour de Dieu. On a vu que l'obéissance amène la promotion, la protection et la révélation. Et on a vu que c'est pas parce qu'on a un appel de Dieu dans notre vie qu'il va s'accomplir automatiquement. Non, Dieu nous demande un cœur obéissant. La troisième chose que Abraham avait dans sa vie, c'est que c'était un adorateur. Je vous rappelle que Dieu ne cherche pas l'adoration, Dieu cherche des adorateurs. Parce que l'adorateur va avoir un fruit, c'est l'adoration. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 4, je vous le rappelle. Où il parle justement que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ensuite, la quatrième clé que nous avons vue, c'était la clé de la foi. Si vous voulez réussir dans votre destinée, il va vous falloir la foi, ça il n'y a pas de secret. La foi pour démarrer dans votre destinée, c'est-à-dire commencer à faire les premiers pas que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et je vous rappelle que la foi, c'est marcher sur la parole de Dieu. Soit la parole écrite, soit une parole spécifique que Dieu vous a donnée. Quand il vous a parlé d'une façon spécifique, et à ce moment-là, tu obéis. Et tu marches dans la foi. Et cette foi, au début, tu en as besoin pour démarrer dans ta destinée. Ensuite, nous avons vu la foi contre les circonstances, donc contre la tentation de s'écarter de la volonté de Dieu.
Il
y a des gens qui commencent dans leur destinée et les choses deviennent extrêmement difficiles et ils abandonnent. Comme les disciples qui étaient dans la barque, il y a d'un seul coup une grande tempête. Et il réveille Jésus alors que Jésus était en train de dormir à l'avant du bateau. Alors qu'ils étaient en pleine volonté de Dieu, alors qu'ils avaient vu plein de miracles.
Et
ils commencent à secouer Jésus en disant, mais Seigneur, tu t'inquiètes pas, on est en train de périr. Alors qu'ils venaient de vivre le ciel sur la terre juste quelques heures avant. Ensuite, nous avons aussi la foi dans ce que Dieu nous a dit. C'est-à-dire, il y a un moment où Dieu te fait des promesses, et c'est ce qu'Abraham a vécu. Dieu lui avait promis une descendance.
Il vieillissait.
Et entre le moment où Dieu lui a promis cette descendance, jusqu'au moment où il a vu la naissance d'Isaac, il s'est passé 25 ans. Mais la Bible nous dit qu'Abraham est le père des croyants. Et à ce moment-là, Abraham a cru, et la Bible nous dit que ça lui fut compté à justice. Ensuite, évidemment, après, une fois que vous êtes pleinement dans votre destinée, vous avez besoin d'une foi dans l'infinie puissance de Dieu. Et c'est là où vous passez de la bénédiction à la super bénédiction qui déborde de partout. Malheureusement, très peu d'êtres humains arrivent à ce genre de vie. La cinquième chose que nous avons vue, la cinquième clé, et nous allons continuer aujourd'hui là-dessus, c'est être quelqu'un de relation. Vous ne pourrez pas réussir votre destinée seul. Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de bonnes relations. Vous avez besoin de savoir quoi faire, avec qui et comment. Et on voit qu'Abraham, lui, il utilisait déjà un premier principe dans ses relations. Abraham ne mettait jamais ses propres intérêts avant la relation. Nous avons vu cet exemple quand il va se séparer avec Lot. Abraham fait attention à une chose. Alors que c'était lui qui était le détenteur de la promesse. Alors que c'était lui qui avait amené son neveu avec lui, quand il y a eu le moment difficile de relation, quand,
entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, ça commençait à chauffer, et que ça risquait de chauffer entre deux, Abraham a anticipé le problème. Et il a dit à Lot, ok, je vois que ça ne va plus être gérable qu'on soit ensemble. Ok, donc toi, tu pars d'un côté, moi je pars de l'autre, mais tu choisis. Et Abraham, alors que normalement c'était le leader, il a donné le choix à Lot. Et Lot est parti vers les plaines du Jourdain, nous dit la parole de Dieu. Abraham est parti de l'autre côté. Mais Abraham, ça nous montre qu'il a mis la relation avant ses intérêts perso. Ensuite, la deuxième chose que je vous ai montrée, si vous voulez réussir, à part mettre vos intérêts à côté par rapport à la relation, c'est-à-dire de ne pas briser une relation juste pour un intérêt. La deuxième chose, c'est reconnaître les onctions sur les gens que Dieu a oints. On voit Abraham, après avoir remporté cette bataille contre les pilleurs de la ville de Sodome, lorsqu'il remporte cette bataille, qui ramène tout un butin, Abraham va vers Melchisedec. Et il reconnaît chez Melchisedec un serviteur de Dieu. Il lui donne la dîme de tout. Je vous ai montré que David aussi était quelqu'un qui savait reconnaître les onctions. Alors qu'il pouvait détruire Saül et donc, comme il était appelé à être le successeur, prendre sa succession, David à deux reprises a dit qu'il ne toucherait pas à celui qui est oint par Dieu. Pourtant, Saül était dans la désobéissance. Il était dans tout un tas de problèmes personnels. Mais parce qu'il y avait l'onction divine sur Saül, David n'a pas touché à sa vie. Et ça montrait le cœur de David. Et je vous ai montré qu'il y a un certain nombre de personnages bibliques. Par exemple, Saül était tout à fait l'opposé. Lorsqu'il a désobéi, le prophète Samuel, qui était un leader extrêmement fort, extrêmement puissant, qui avait avait énormément de poids sur la nation d'Israël, a repris Saül. Il l'a repris sévèrement par rapport à l'action qu'il avait faite. Et Saül s'est permis de déchirer, alors que le prophète partait, il lui a donné une parole de Dieu. Saül s'est fâché. Il a arraché le bord du vêtement du prophète. Et le prophète lui a donné une autre parole. Vous pourrez relire ça dans 1 Samuel. Alors maintenant, on va voir le troisième principe relationnel, qui est extrêmement important, c'est de savoir comment s'y prendre avec les païens. Comment savoir s'y prendre avec les païens? Parce que si vous voulez réussir votre vie, vous aurez toutes sortes de pressions de partout. Et il va falloir que vous appreniez à faire attention à un certain nombre de choses. Vous savez, les relations en général, quand on est jeune, on n'y prend pas trop garde. Mais quand on commence à vieillir et qu'on s'est aperçu que nos relations sont très mauvaises avec tout le monde, par exemple, ou qu'on n'a pas construit des relations à long terme, c'est là où on réalise l'erreur qu'on a pu faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut apprendre. Et souvent, malheureusement, on ne le sait pas. Par exemple, on est là, on a des amis, ou par exemple, on peut parler aussi des ministères, des pasteurs. On peut parler de toutes sortes de personnes dans la vie ou des relations de business. Il y a des gens qui, par leur caractère, gâchent tout. Ne réalisent pas là où Dieu veut les amener. Ne réalisent pas qu'ils ont besoin de bonnes relations. Je discutais justement à ce propos avec une servante du Seigneur il y a quelque temps. Et elle me disait, oui, nous, définitivement, nous avons absolument besoin de bonnes relations au niveau du ministère. Avec d'autres ministères. Et dans la vie, on rencontre toutes sortes de gens, vous savez. C'est seulement quand vous avez fait un long chemin avec eux que vous savez réellement qui ils sont et si ce sont des gens avec qui vous pouvez avoir des relations beaucoup plus proches ou plus éloignées. La Bible nous donner certaines règles relationnelles. On va regarder quelque chose, un passage avec Abraham. Abraham savait y faire. Dans Genèse chapitre 14, Abraham donc va revenir de cette bataille avec les fameux rois qui étaient venus piller Sodome.
Abraham arazavuye mu ntambara avuye kunyaga babami bari baje gutera aho baba.
Qui avait emmené donc Lot, toute sa famille et tous ses biens aussi.
Bari baje gutera Sodome batwara Lot n'umujyango we n'ivyo yaratunze byose.
Abraham est venu défendre Lot, il est venu y récupérer sa famille.
Maze Abraham aza kugwanirira Lot aza kugarura umujyango wiwe wari waratwawe.
Verset 14, donc de Genèse. On va lire ensemble. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu, donc Lot, avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc il y a une restitution ici. Ensuite, il va y avoir ce passage avec Melchisédek. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. » Alors regardez bien maintenant à partir du verset 21. On a vu déjà du verset 17 au verset 20, nous avons étudié l'attitude d'Abraham par rapport aux serviteurs de Dieu. Maintenant nous allons étudier l'attitude d'Abraham entre le verset 20 et le verset 24 par rapport à un très très mauvais païen.
Verset 20 à 24.
Parce que le roi de Sodome, c'était un très mauvais païen. Nous avons étudié la destruction de Sodome et Gomorrhe. Vous vous rappelez quand je vous ai montré l'histoire de Lot et le naufrage de l'histoire de Lot. Combien Lot avait tout parce qu'il était entouré d'un homme de Dieu.
Et qu'il
a déterminé, et qu'il a terminé comme un naufragé dépressif. Solitaire. Avoir peur de tout, traumatisé. Et avec de l'inceste dans sa famille. Franchement, une catastrophe totale. Sa vie a été une catastrophe totale alors qu'il avait tous les éléments pour réussir sa vie.
Et
nous savons que le roi de Sodome était quelqu'un qui était extrêmement perverti. Dieu a détruit Sodome et
Gomorrhe.
Et je vous rappelle que la sodomie, ça vient du mot Sodome.
Et
il y avait des sacrifices humains, il y avait toutes sortes de saletés dans cette ville.
Et
c'est pour ça que Dieu va les détruire. Abraham n'était pas ignorant de ces choses. Abraham, lui, ne vivait pas dans ces villes, l'autre vivait dans ces villes. Mais Abraham savait très bien qui était le roi de Sodome. Et vous savez, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment perverti, méchant, servant le diable, il va falloir que vous sachiez comment faire. Et ici, Abraham a montré une expertise. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham avait gagné la guerre.
Abraham, verset 22,
il est dit, répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, etc., etc., eux, ils prendront leur part. Vous savez, Abraham aurait eu la capacité, le droit de prendre tous les biens. Mais il ne s'est pas permis le luxe d'avoir un païen qui allait dire, oh, vous savez, Abraham, pourquoi il est devenu riche? C'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Abraham ne voulait pas donner. Vous savez, il y a des moments où on ne doit pas donner l'opportunité aux païens, donc au travers de cela, au diable. De recevoir un petit morceau de gloire quelque part. Il y a de l'argent sale où tu ne dois pas toucher. Ne touche pas à l'argent sale. Quand tu commences à toucher à l'argent sale, méfie-toi. Tu es en train de te créer un lien avec certaines personnes qui ne servent pas Dieu. Je
ne
sais pas pourquoi, c'est vraiment un sujet que j'ai ce matin. Hein. Que ce soit quand on a fait les 10 000 offrandes, que ce soit encore maintenant, ça tombe comme ça. Et je ne crois pas que ce soit par hasard. Faites attention dans vos relations et l'argent des gens qui veulent acheter vos relations. Faites attention à cela. Genèse 23, il va y avoir le même genre de truc qui va se passer. Là encore, Abraham va réagir d'une certaine façon. Faisons attention à ce que nous semons dans notre vie, frères et sœurs. Parce que tôt ou tard, nous le récolterons. Il y a des choses que tu ne dois pas toucher. N'y touche pas. Ne touche pas à ce genre de truc. Abraham, il était au milieu d'une grande hostilité. Abraham était un croyant, il marchait avec Dieu.
Et
il avait affaire tout autour de lui à des gens qui étaient en abomination devant Dieu.
Ils
faisaient les pires trucs. 400 ans plus tard, lorsque Israël va venir et conquérir le pays de Canaan, Dieu va ordonner que les sept nations nations qui étaient dans le pays de Canaan et dans l'entourage
soient
éradiquées de la terre. Pourquoi? Parce que les recherches ont montré que c'était des peuplades qui faisaient des choses horribles et surtout des sacrifices humains. Dans cette région du monde, ils avaient un dieu qu'ils appelaient Moloch. Une espèce de statue, évidemment, c'était des esprits sataniques.
Et
ils avaient fait une espèce de statue où il y avait quelqu'un comme ça qui tenait ses mains comme ça.
Dans cette statue.
Elle représentait cela. Et il y avait un trou. Ils faisaient du feu. Et ils mettaient leurs enfants dessus. Et ils donnaient ça aux démons. Et ils invoquaient les esprits sataniques. Les faux dieux. Et Dieu a éradiqué ces populations-là.
Donc,
Abraham était dans une hostilité terrible. Une hostilité qui est beaucoup moins forte aujourd'hui, je dirais. En tout cas, dans la région où on est. Ça n'a rien à voir. Donc, ne te plains pas en disant « Oui, les païens ceci, les païens cela. » Oui, c'est vrai. Mais ça
n'a
peut-être pas grand-chose à voir par rapport même à ces peuples-là. Donc, si Abraham a su y faire, tu dois savoir y faire toi aussi.
Et
ça va être l'histoire de l'achat d'un terrain pour donc enterrer
Sarah.
Donc Sarah va mourir et Abraham donc voulait enterrer sa femme. Et il est dit au verset 7, Abraham se leva et se prosterna devant les gens du pays, devant les Hittites. Il leur parla ainsi, si c'est votre volonté que j'ensevelisse le corps de ma femme et l'éloigne de ma présence, parce qu'évidemment le corps était en train de se décomposer, écoutez-moi et présentez ma requête à Éphron, fils de Tsoar, qu'il me cède la grotte de Macpéla qui lui appartient au bout de son champ, qu'il me la cède contre la valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. Éphron siégeait parmi les Hittites, Éphron le Hittite répondit à Abraham en présence des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la grotte qui s'y trouve. Je te la donne sous les yeux des fils de mon peuple, ensevelis le corps de ta femme. Abraham se prosterna devant les gens du pays. Il parla en ces termes à Éphron en présence des gens du pays. Écoute-moi à mon tour, je donne le prix du champ. Accepte de ma part et j'y ensevelirai le corps de ma femme. Mais Éphron répondit à Abraham, mon Seigneur, écoute, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre toi et moi? Ensevelis le corps de ta femme. Abraham entendit Éphron et lui pesa l'argent qu'il avait mentionné en présence des Hittites, 400 cycles d'argent ayant cours dans le commerce. Ainsi le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouvent, tous les arbres situés dans les limites du champ, devinrent la propriété d'Abraham sous les yeux des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent demeurèrent à Abraham comme propriété funéraire achetée aux Hittites. Alors on va lire verset 11 jusqu'au verset 16 en Kirundi, s'il vous plaît.
Ati mushinga ntahe kugica cha 23 itanguriro 11 ati mushinga ntahe oyaye endumviza iryo tongo ndari guhaye boni senga irimwo ndayi guhaye biguhereye imbere y'ubwoko bwacu hamba umuntu wawe. Aburahamu yikubita imbere ya bene gihugu abarira Efroni bene gihugu bumva atenda senda kwinginze nyumviriza ndaguhiga iciro c'iryo tongo emera nkiguhe mahambe umuntu wanje. Efroni yishura Aburahamu ati mushinga ntahe ni wumve none agatongo gaceshe keri zifeza majana ne konteranya nawe nuko hamba umuntu wawe. Aburahamu yumvise ibya Efroni amugerera ku munzane za feza yaciriye abaheti bumva shekera majana ne zifeza kimwe nizo abadandaza bacuruza.
La plupart d'entre nous, on a dit, ah, tu veux me donner le terrain? Donne-le-moi sans aucun problème. On aurait réagi comme ça, non?
Et
on aurait dit, ben, le Seigneur m'a béni, vous savez pas quoi? Mais là, Abraham, il n'a pas fait ça. C'est étonnant cette histoire. Hein? On voit ça dans le caractère d'Abraham.
C'est
vrai que pour lui, ça devait représenter juste une toute petite partie de son immense fortune. Mais Abraham n'a pas accepté ses faveurs. Deux fois, il aurait pu avoir cet argent comme ça.
Vous
voyez, la première fois avec le roi de Sodome. La deuxième fois, il aurait pu avoir ce terrain pour enterrer sa femme. Avec toute une grotte, avec tout ça. Il y avait même des témoins, tout allait être fait dans l'ordre.
Hein.
Mais il a dit non. Je veux payer. Vous savez, quand vous payez quelque chose, l'autre personne, vous ne lui devez rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recevoir des choses. Mais nous avons besoin de discernement. Faisons bien attention. Écoutez, vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai sur mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est quelque chose que j'ai sur mon cœur. Il y a des choses qui te paraissent gratuites aujourd'hui, mais qui seront très fortement payantes pour toi plus tard. Je répète, il y a des choses qui te paraissent gratuites aujourd'hui, mais qui te coûteront très cher plus tard. Dans ta vie, fais attention. Il y a des choses que tu peux accepter. Comme des dons, comme des choses que quelqu'un va te donner, il
n'y
a aucun problème. Quand tu sens dans ton cœur que c'est juste,
mais
ne laisse pas certains sentiments parfois prendre le dessus et d'accepter n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui viendront te voir plus tard, des années plus tard, et te diront: j'ai fait ça pour toi, tu te rappelles? Et tu vois, moi aujourd'hui j'ai telle et telle chose. Et ils vont te proposer quelque chose qui n'est pas du tout clair. Mais quand tu auras accepté tout cela gratuitement il y a bien des années, la personne viendra à toi comme si elle a un droit quelque part.
Frères et
sœurs, faisons très attention à cela. Abraham était quelqu'un de très prudent dans ses relations. Il a appris ces choses. Il a fait des erreurs. Mais je dois dire que quand on étudie sa vie, on s'aperçoit qu'il faisait attention. Nous avons strictement le même principe encore. Quand Naaman le Syrien va être guéri, nous trouvons cette histoire dans Deux Rois. Et Naaman va être guéri. Chapitre 5. Donc je vous fais un bref résumé. Naaman est guéri par la puissance de Dieu de sa lèpre. Et vous le savez, vous connaissez cette histoire, on a prêché plusieurs fois là-dessus. Il avait sa façon de voir les choses pour être touché par Dieu. Il allait partir alors que le prophète a fait envoyer un message: va te baigner sept fois dans Jourdain. Naaman est vexé. Il dit quand même: vraiment, moi je pensais que le prophète allait être là devant moi, c'est-à-dire qu'il allait venir en personne, alors que le prophète avait envoyé son serviteur. Je pensais qu'il allait lever sa main, enfin faire tout un tas de trucs.
Hein.
Il était vexé, parce que ce n'était pas ce que lui, il pensait. La façon dont Dieu devait faire les choses. Et il a failli passer à côté de son miracle. C'est malheureusement souvent l'attitude de l'homme. Mais finalement, il a des serviteurs qui vont lui dire: Non, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Finalement, il reçoit sa guérison. Alors qu'il est guéri, verset 15, il est dit: il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit: l'Éternel devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa.
Guhanyuma agarukana n'abantu biwe bose kuri uwo muntu w'Imana, arazahagarara imbere yiwe aramubarira ati noneho ndamenye ko atayindi Imana iriho mu isi yose atari mu Bisirayeli, enda rero ni wabire ingemu nguhaye jewe umusavyi wawe. Elisa aramwishura ati nkurahi uguhoraho kuhoraho uwo nsavye nta kintu na kimwe nshobora kwabira, aramugobera ngo avyabire ariko aranga.
Rappelez-vous d'une chose. Accepter quelque chose doit être quand nous le ressentons. N'acceptez jamais des pressions pour qu'on vous donne certaines choses. Alors qu'il y a, comme on dit souvent ici, un agenda caché derrière tout ça. Sinon, tu risques de créer un lien entre la personne et toi qui après, de plus en plus, peut être fort et devenir mauvais. Et quand c'est comme ça, tu le paieras très cher plus tard. Ici, Élisée sentait vraiment qu'il ne devait pas recevoir ce présent. Il a refusé. Le serviteur d'Élisée va y aller plus tard.
Et nous savons
ce qui va se passer pour lui.
Ce n'est
pas mon sujet. Alors, concernant nos relations, comment nous devons faire? J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Et dans mes relations, je dois faire du ménage. Dans vos relations, vous devez faire attention à plusieurs choses. Vous recevez Christ. Et une fois qu'on reçoit Christ, on est dans une nouvelle famille. C'est la famille de Dieu. Cette famille, on doit tisser des relations avec des frères et sœurs qui ont le même type de foi que nous. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. Mais la Bible est claire aussi. Nous ne pouvons pas couper toutes les relations avec les païens.
Non.
Parce que la Bible nous dit clairement que nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc chaque jour, nous avons affaire à des gens qui sont sauvés. Ce sont des frères et sœurs en
Christ.
Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas sauvés, envers qui nous avons, je dirais, à avoir affaire tous les jours. Parmi ces gens-là, il y a deux groupes de gens. Il y a des personnes à qui vous allez parler de Jésus. Et une partie de ces personnes-là vont recevoir le Seigneur. Et là, bien évidemment, nous devons fréquenter les frères et sœurs en Christ. Maintenant, parmi ces gens à qui vous parlez de Jésus, que vous fréquentez dans votre cercle relationnel, il y a deux types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont des gens qui vont respecter votre foi et qui ne vont pas vous chercher à vous manipuler d'une manière ou d'une autre. Je vous rappelle que nous rencontrons des gens dans la vie qui essaient de ce qu'on appelle nous manipuler. C'est-à-dire forcer sur notre volonté pour nous faire faire des choses qu'ils veulent qu'on fasse. Je
ne
parle pas d'un job. Si tu as un patron, tu dois faire ce qu'il te dit dans la mesure où les choses ne sont pas des choses du péché. Bien sûr. Mais je parle de relations d'amitié ici. Et il y a certaines de ces personnes qui n'ont jamais reçu Jésus, avec qui tu as mis les choses au point, tu faisais toutes sortes de péchés avec eux, mais vraiment tu leur as dit écoutez moi ça c'est fini. Donc ces gens là s'ils respectent ce que tu dis, sans que ce soit une tentation ou un piège pour toi, tu continues à les fréquenter. Par contre, il y a d'autres personnes avec qui tu faisais toutes sortes de choses, toutes sortes de péchés, toutes sortes de trucs bizarres. Et ces gens-là essayent de te ramener dans leur péché. Tu leur as parlé maintes fois, tu leur as dit non, moi maintenant c'est terminé.
Moi,
c'est truc là, je ne m'y mets plus, ne m'appelez plus pour faire ce genre de péché, je n'accepte plus.
Ils se moquent
de vous, ils vous méprisent. Et ils essayent toujours, tôt ou tard, de vous relancer. Avec ce genre de personnes, vous devez être ferme et radicaux. Vous devez couper la relation. Sinon, ça risque d'être extrêmement dangereux pour votre vie. Parce qu'il y a des moments, vous savez, surtout quand on démarre avec le Seigneur,
où
ça va bien, puis il y a des moments où c'est un peu plus difficile, on remet en question certaines choses, c'est normal.
Il
y a des moments où on est plus faible, il y a des moments où on est plus fort.
Et
ne laissez jamais une opportunité au diable pour que des gens aient des liens relationnels mauvais envers vous. Parce que ça vous ramènera dans le péché. Ça vous ramènera à rétrograder. Et il y a des moments où on doit prendre une décision ferme. De dire, ça c'est fini, toi, c'est terminé, nous n'aurons plus aucune relation ensemble, quelle qu'elle soit, des relations d'amitié.
C'est fini.
Moi, tu ne veux pas respecter ce que je te dis. Tu me déranges, c'est terminé. Et ça, c'est un choix que tu dois faire. C'est une décision que tu dois prendre. Si tu ne prends pas cette décision, c'est dangereux pour ta vie. Pourquoi ? Parce que tu es en train de mettre ta main dans le feu. Et quand on met la main dans le feu, qu'est-ce qui se passe ?
Eh
bien, on se brûle. Et c'est ce qui se passe chez un certain nombre de chrétiens qui ne veulent pas faire de nettoyage dans leurs relations.
Et
vous voyez, Abraham utilisait ce principe. Les gens qui risquaient potentiellement d'être une chute pour lui, ils s'en méfiaient. Il y a des gens, vous savez, bon, parfois aussi, qui ne vous font pas, je dirais, qui ne vous entraînent pas forcément dans le péché, mais qui vous mordent régulièrement. C'est-à-dire constamment, il y a des problèmes relationnels avec eux. Ces gens-là, vous devez mettre une certaine distance. Qu'ils soient d'ailleurs chrétiens ou non chrétiens. Vous devez vous protéger. Apprenez à protéger vos relations. Et à vous protéger vous-même. Au niveau relationnel, il faut faire attention.
1
Corinthiens 15, verset 33. Il est dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc faisons bien attention à cela. Nous avons à prendre des résolutions.
1
Corinthiens 15, verset 33. Ça, c'est très important. Si vous voulez réussir votre vie, votre entourage relationnel est quelque chose d'absolument fondamental. Si vous ne voulez pas écouter ce genre de sermon, je vous garantis, vous n'irez pas loin. Vous ferez des choses avec des gens et paf, ça va péter encore relationnellement. Mais vous allez refaire encore des choses avec d'autres personnes et pouf, ça va encore exploser. Et pouf, vous allez vous remettre dans le péché. Et pouf, vous allez vous mettre dans des liens que des gens ont créés, des pièges qu'ils vous ont tendus. C'est exactement le contraire qui doit se passer. Normalement, un chrétien doit construire de bonnes relations. Un ministre de l'évangile doit aussi construire de bonnes relations avec d'autres ministres de l'évangile, parce que nous avons besoin les uns des autres. Et si on ne fait pas attention à cela, hein, si tu es une personne qui a tout le temps de mauvaises relations, mauvaises relations, ça veut dire que soit tu n'arrives pas à garder des amis, soit tu as des relations qui constamment te mettent dans des chutes, ou c'est tout le temps des vagues et des vagues et des vagues, que tu ne peux pas avoir des amis de longue date, ça veut dire que tu as des problèmes relationnels. Et il va falloir assainir ta situation, parce que c'est pas maintenant que tu vas le payer à court terme, c'est à long terme que tu vas le payer. À long terme, tu vas avoir des difficultés. Soit il y a des gens un jour qui vont venir et qui vont avoir une très mauvaise influence sur toi. Soit tu vas te retrouver complètement isolé. Et ça, c'est pas bon non plus. Parce que de toute façon, tu ne pourras pas réussir ta destinée si tu n'es pas capable d'entretenir des relations correctes. Bien sûr, dans nos relations, il y a différents niveaux. Il y a des gens avec qui vous pouvez avoir une simple relation fraternelle ou une relation d'amitié simple. Il y a des gens avec qui Dieu vous connecte spirituellement. Ou là, ça devient des relations spirituelles. Bien sûr, il y a des relations amoureuses, là, c'est clair, c'est différent. Mais il y a différents types de relations. Il y a des moments où on peut aller plus loin avec certaines personnes, où on peut leur confier certaines choses personnelles. Il y a d'autres gens, vous ne pouvez rien leur confier parce que le lendemain, ça sera sur Radio Trottoir. Et ces gens-là sont terribles. Ces gens-là, vous pouvez pas, vous êtes obligé de mettre une distance avec eux. C'est triste à dire. Il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas rester 5 minutes et puis ils vont critiquer tout le monde sur la terre. Il y en a d'autres, ils vont jamais être de bonne humeur. Et faisons attention, frères et sœurs. Nous devons apprendre à avoir des bonnes relations. Et aussi à travailler sur nous-mêmes pour que ces relations soient bonnes. Parce que sinon, on est obligé de mettre des distances. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Si vous avez une relation qui est constamment en train de vous mordre, au bout d'un moment, vous mettez une barrière parce que vous n'avez pas envie qu'on vous morde encore.
Et
c'est pour ça que nous devons apprendre. Et ça s'apprend avec la vie, ça s'apprend au travers de la parole, ça s'apprend au travers du travail que nous faisons sur notre caractère. Il y a des gens, parfois, on pense qu'on peut avoir de très bonnes relations avec eux, et ce n'est pas le cas. Il faut être plus prudent, il faut mettre certaines distances. Et des fois, on s'engage trop vite. Et quelques temps après, ben, on est très déçu, oui. Mais je tiens à vous dire une bonne nouvelle. Il y a des gens très bien sur cette terre, le tout c'est de les rencontrer.
Amen.
Il en existe. Il y en a parmi vous. Il y en a qui ont besoin de changer aussi. Mais peu importe, l'important c'est de savoir où on veut aller. Mais il ne faut pas dire il n'y a personne qui est bon sur cette terre. Seigneur, tu es le seul, les hommes sont pourris.
Il
y a des gens bien, il y a des gens aussi qui peuvent changer et s'améliorer. Amen. Maintenant, si tu n'es pas satisfait des autres, essaye-toi vraiment de devenir le meilleur que tu puisses devenir dans le Seigneur. Et tu seras un exemple, les gens viendront te voir. Et te diront, mais pourquoi ça marche bien? Pourquoi est-ce que tu es tout le temps comme ça? Vraiment, tu reflètes vraiment le Seigneur. Et là, tu pourras expliquer certaines choses. Et tout ça, ça fait partie de la vie. On ne peut pas vivre sans avoir de bonnes relations. C'est pas possible. Quand les relations sont pourries partout, c'est très mauvais. Alors, un quatrième principe aussi que Abraham a utilisé, c'est qu'il avait vraiment de l'amour pour les gens. Et particulièrement pour Lot. Quand on étudie l'histoire de Lot et d'Abraham, franchement, Lot, il a joué le mauvais garçon. Franchement, il a vraiment joué le mauvais garçon. Pourquoi? Parce que Abraham était vraiment l'homme de Dieu. Il avait vraiment tout du Seigneur. Il était ultra béni par Dieu. Lot vient à côté de lui et je vous ai montré comment, quand vous êtes proche de quelqu'un qui est béni, comment cette bénédiction peut déteindre dans votre vie. Lot n'était pas béni parce qu'il cherchait Dieu. Mais si vous lisez bien, vous verrez que Lot était béni parce qu'il était proche d'un homme de Dieu qui était proche de Dieu. Et il en avait plein de conséquences. Et c'est pour ça que Lot a été autant béni. Mais il n'a pas su saisir son opportunité.
Aussi.
Et on voit que Lot part vers ce qui lui plaît le plus, la plaine du Jourdain, parce qu'il pensait à ses animaux. Là où il y avait cette belle rivière qui coulait. Et il s'est dit, c'est bon, je vais encore plus prospérer avec mes animaux. Donc nous savons que Lot n'était pas quelqu'un, entre guillemets, de vraiment recommandable.
Il va s'intéresser
à Sodome et Gomorre, des villes complètement perverties, horribles devant Dieu.
Et
franchement, Abraham aurait pu dire, bon bah écoute, Seigneur, tu veux détruire Sodome et
Gomorre.
Bah écoute, fais-le. Dieu se révèle à lui, je vous rappelle dans Genèse 18.
Et quand
Dieu se révèle à lui, Dieu lui redonne des super
promesses. Il
commence à lui dire des choses extraordinaires.
Et puis
il lui dit, je reviendrai vers toi, Sarah aura un fils. Vraiment, Abraham était en train de vivre un moment extraordinaire dans sa vie.
Mais
au bout d'un moment, Dieu lui dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire? Et Dieu dit, tu vois toute la méchanceté qu'il y a à Sodome et Gomorre, je vais détruire ces villes. Et Abraham aurait pu dire, oh, gloire à toi Seigneur, toi, de toute façon tu m'as donné une belle promesse pour ma vie, le reste tu sais, fais ce que tu veux. Il aurait pu réagir comme ça. Et puis il aurait pu dire, après tout, il y a Lot, c'est vrai, Lot est dans Sodome. Mais bon, franchement, vu ce qu'il a fait avec sa vie. Seigneur, que ta volonté soit faite. Non, Abraham n'a pas réagi comme ça.
D'un
seul coup, il y a eu le cœur de Dieu qui est descendu en lui. Il s'est mis à intercéder. Et à dire à Dieu, s'il y a X juste dans cette ville, est-ce que tu vas détruire le juste et l'injuste? Et
il
y a cette fameuse prière d'intercession extraordinaire.
Et
je vous rappelle que l'intercession, c'est prier pour qu'un jugement soit évité sur quelqu'un ou retardé sur quelqu'un alors qu'il mérite ce jugement.
Et
qu'est-ce que Abraham va faire? Il va voir le cœur de Dieu pour que Lot et sa famille puissent s'en sortir. Ça montrait cet amour qu'il avait. On pourrait largement dire des choses là-dessus, mais je ne veux pas trop passer de temps. Et dans 1 Jean 4:20, la Bible nous dit quelque chose. Vous ne pourrez pas réussir votre vie, réussir votre destinée, si vraiment vous n'avez pas un amour sincère pour les gens. Parce que vous êtes une semence pour les autres.
Dis
à ton voisin, tu es une semence pour les autres. Amen. Je vous assure. Vous n'êtes pas une semence pour vous-même. Dieu ne vous a pas planté dans son royaume pour simplement que vous soyez bénis vous pour vous-même. Rappelez-vous que la première chose que Dieu avait dit, enfin une des premières choses que Dieu avait dit à Abraham, c'était « Je te bénirai pour que tu sois une source de
bénédiction. »
Il y a un temps, je te le rappelle, où tu dois être restauré, où tu dois être construit dans le Seigneur. Mais
ce
n'est pas ta finalité. Ta finalité, c'est pour que tu portes des fruits pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire en allant chercher les autres et en étant une bénédiction chez les
autres.
Si tu veux seulement grandir dans le Seigneur pour toi-même et rester à ce stade, au bout d'un moment, tu vas pourrir sur place comme une plante qui est en train de pourrir. Tu vas devenir tellement gros que tu ne vas même plus pouvoir te déplacer. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est vrai que tu dois être béni avant d'être une bénédiction. Mais ne t'arrête jamais là, à la première étape. Et toujours en perspective la deuxième étape. La Bible nous dit, 1 Jean 4:20. Il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Si Alors si tu dis au Seigneur, Seigneur, je t'aime et que tu es prêt à décapiter ton frère, c'est que
tu as
un problème. Très sérieux. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ah, devant Dieu, ils font... Ils sont super spirituels. Ils aiment la présence de Dieu. Ils aiment être... Seigneur, toi et moi, et moi et toi. Mais les autres. Le problème que tu oublies, c'est que le même Dieu à qui tu es en train de dire ça, il habite ici, chez l'autre. Faisons attention, frères et sœurs.